Alors ce soir, je voulais parler d'un thème et le titre du message, ça pourrait s'intituler Être prêt. Être prêt. Dans la vie, on a parfois des occasions où on se prépare pour quelque chose et on fait tout pour être prêt. Parfois, on n'est pas prêt pour certaines choses parce que la vie amène son lot d'imprévus, mais parfois, voilà, nous avons des projets, on a des envies et on veut se préparer à certaines choses. Certains travaillent à l'école, par exemple, ou à l'université pour se préparer à avoir un métier, c'est-à-dire qu'on met tout de son côté, on veut être prêt pour le jour où on veut gagner sa vie, où on gagnera sa vie. De façon plus légère, on se prépare à partir en vacances, par exemple. On fait ses valises, on réserve, on fait le plein dans la voiture avant de partir. Enfin bref, on se tient prêt. Ce soir, on était assez peut-être prêt à écouter le président. Alors, on savait que c'était à 20 h, on se préparait. Il y en a qui se préparent à sortir de cette période Covid. D'accord? Ils disent, voilà, ils sont sur les starting blocks en disant quand est-ce que ça va finir, quand est-ce qu'on aura nos conférences en présentiel, quand est-ce qu'on pourra voyager, etc. Il y en a qui se préparent à la retraite. Il y en a qui mettent de l'argent de côté pour quelque chose, ils se préparent. Mais spirituellement, cette notion d'être prêt revient assez souvent de la part du Seigneur, où on nous demande d'être prêt. Et ce qui est intéressant, c'est que on va voir ce soir que pour être prêt, il est important de savoir que certaines choses sont déjà prêtes. Pour le dire autrement, Dieu a préparé des choses, et c'est en s'appuyant sur ces choses déjà prêtes que nous, on s'apprête pour la suite et qu'on se prépare. Le premier verset que j'aimerais lire, c'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, et versets 3 à 5. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Il est dit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut est prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors, je vais préciser, parce que c'est là où on ne doit pas avoir une lecture littéraliste, mais on doit avoir une interprétation normale du verset ici, c'est que nous voyons dans ce passage donc qu'il y a Jésus-Christ qui est ressuscité, nous avons été régénérés, donc ça c'est fait, mais que nous avons un héritage qui est préparé, qui lui ne peut pas se corrompre, ni souiller, ni flétrir. Il nous est réservé dans les cieux, donc c'est préparé par Dieu, et nous sommes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés. Alors on pourrait se dire, mais avec ce qui précède, on a déjà eu des révélations. Mais là, l'auteur parle du salut entier, c'est-à-dire toutes les bénédictions du salut. Et or, même s'il y a des choses que nous avons déjà reçues, et même s'il y a Dieu qui a préparé certaines choses pour le futur, par définition, ces choses futures, on ne les expérimente pas encore. Donc, quand il est dit le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, pour schématiser, ça parle en réalité de la résurrection des corps, c'est-à-dire que quand on va être glorifié, et dans la présence du Seigneur. C'est ça que ça signifie dans ce passage, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc on voit que le Seigneur a préparé quelque chose. Ce qui est intéressant, parce que tout à l'heure je vous parlais de, parfois quand on a des projets, des envies, on tient à être prêt, et donc on met tout en ordre, on fait tout pour que les choses soient prêtes. C'est ce que le Seigneur a fait, en fait. Dès la chute, et bien avant, puisque c'était un plan prévu avant la fondation du monde, Dieu était prêt et il a mis en place les choses et puis il a agi au travers de son Fils Jésus-Christ pour nous préparer le salut. Et ça, c'est ce qu'il a fait. Donc ça parle du passé. Il y a quelque chose de prêt pour nous qui a commencé dans l'éternité passée et qui va nous être révélé quand on va l'expérimenter. Alors le verbe là, prêt, c'est étoïmos en grec. Ça parle de ce C'est drôle, c'est presque un pléonasme. C'est préparer à être prêt. on se prépare à être prêt. Et ça parle aussi d'avoir quelque chose sous la main, une saison, une opportunité. C'est prêt, ça parle de quelque chose de mûr, si vous voulez. Et l'idée qu'il y a derrière, et c'est le sens là plus particulier de ce verset, c'est être prêt à recevoir quelqu'un. Et donc le Seigneur a préparé le salut pour nous, plein et entier, et donc ça, c'est prêt. Je pense que déjà, on peut s'arrêter un instant et méditer et de se dire, c'est réconfortant de savoir ça. Vous savez, quand, imaginons que vous soyez invité par quelqu'un un jour, enfin, ça vous est déjà arrivé, j'imagine, mais vous êtes invité pour un repas un dimanche midi, et vous sonnez à la porte, vous êtes à l'heure au rendez-vous, il n'y a pas eu de changement d'heure, tout est normal, vous arrivez à l'heure dite, et la personne vous ouvre avec les yeux complètement embués, en robe de chambre, les cheveux dans tous les sens, le repas de la veille qui est sur la table, bref, rien n'est prêt. Bon, ça peut arriver, hein, si ça vous arrive un jour, n'en voulez pas à la personne, mais c'est quand même un peu bizarre. Hein, c'est que si on est invité, on s'attend à ce que la personne soit prête à nous accueillir ou à nous recevoir. Ben, c'est exactement ce que Dieu fait pour nous et a fait pour nous. C'est-à-dire que le salut est prêt à être révélé. C'est prêt déjà. Ça nous attend. Et donc, on est dans ce repos-là. Le fait que Dieu a préparé le salut pour nous. En Hébreux 9, 28, il est dit: Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et donc ça nous parle de la deuxième venue, hein, et c'est là où nous allons bénéficier complètement de tout ce qui a été préparé pour nous. Nous savons déjà, je le répète, que l'expiation a été faite, la rédemption est accomplie, Dieu a été glorifié. Preuve en est, Jésus-Christ est ressuscité, et Christ est assis sur le trône. Donc il y a plein de choses qui nous ont déjà été révélées, mais il y a un salut plein et entier qui va arriver lors de sa seconde venue. Le psaume 110 nous parle de ça, hein, de Jésus-Christ, le Messie roi, qui va revenir, et le verset 1 commence par ce verset, psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et donc, il faut être prêt à ce jour. Un jour, Dieu va venir pour accomplir totalement le salut, et jusqu'à ce qu'il fasse aussi, ça va être le deuxième point, jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis son marchepied. Je rappelle qu'à l'époque, après une bataille, lorsque des rois se rendaient, les rois vaincus se rendaient, une coutume se pratiquait, c'est que les rois s'allongeait par terre, et à minima, le roi vainqueur mettait son pied, si vous voulez, ou il se servait du corps du roi vaincu comme d'une estrade. Donc il marchait sur lui, et du coup il était surélevé. Ou alors, là c'était encore plus humiliant, surtout s'il y avait, des fois il y avait parfois plusieurs rois, hein, il y avait des guerres avec plusieurs nations, plusieurs peuples. Vous aviez le roi vainqueur qui était sur son trône. Et les rois vaincus s'allongeaient sur les marches de l'escalier qui était devant le trône, et le roi descendait de son trône en marchant sur les rois vaincus. Et donc là, c'est ce que cette expression signifie cela, c'est-à-dire que Jésus-Christ va avoir tous ses ennemis sous ses pieds un jour, de façon concrète, je dirais. Alors, ça ne va peut-être pas être physiquement, mais spirituellement. Même il a vaincu le diable, mais le diable n'est pas encore sous ses pieds, dans le sens où le diable n'est pas envoyé dans le lac de feu. Donc on voit qu'il y a le salut qui est prêt pour nous. Mais parallèlement à ça, en même temps que le salut est prêt, et c'est une chose qu'on a des fois tendance à oublier en tant que chrétien, parce que ça peut paraître logique, on est conscient et content des bénédictions que nous avons reçues, ce sont des bonnes nouvelles, ça s'appelle l'évangile, mais il faut savoir que au même niveau que le salut, c'est-à-dire c'est le plan de Dieu aussi, et c'est sûr que ça va arriver, c'est que tout comme le salut est prêt, le jugement est prêt. C'est-à-dire que Dieu a préparé un jugement pour ceux qui ne l'accepteront pas. Et ça, c'est quelque chose de sûr et certain, c'est préparé. Dans la première épître de Pierre, donc dans la même épître, mais au chapitre 4, c'est de cela dont il est parlé. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 5, il est dit, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est-à-dire que le Seigneur est prêt à juger. Et c'est le même mot, hein, pratiquement. Enfin, oui, c'est eitomos aussi, mais là, c'est dans le contexte, ça parle plus de quelque chose de prompt qui peut arriver rapidement, si vous voulez. C'est comme si c'était sur un ressort ou sur des starting blocks. Donc le jugement est prêt, le jugement final est prêt. Rappelez-vous en Jean 3,36, dans ce même chapitre où nous connaissons ce verset très connu en Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais un peu plus loin, 20 versets plus loin, au verset 36, il est écrit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, nous sommes sûrs que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous avons reçu la vie éternelle et que la bénédiction de Dieu est sur nous, l'amour de Dieu est sur nous. Mais quand on ne croit pas en Jésus-Christ, c'est la colère de Dieu qui demeure sur l'individu. Et encore une fois, c'est une promesse aussi sûre que le salut. Et moi, en étudiant aujourd'hui ce point-là, ça m'a interpellé et je pensais à des gens que je connais qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, des membres de famille, des amis, des voisins, des gens qu'on croise peut-être tous les jours. Si ces gens-là n'acceptent pas Christ, c'est sûr qu'ils vont être jugés, tout comme je suis sûr d'être sauvé. C'est la même assurance. C'est la même assurance. Et c'est pour ça qu'il est important de prier, qu'il est important de parler, d'évangéliser, d'aller au-delà de nous-mêmes parfois, d'être créatif. Hein, on parlait dans l'étude biblique pour les hommes l'autre jour de la créativité. Et en effet, ça a été rappelé dans les témoignages de ce temps dimanche, la créativité est souvent suscitée par la motivation. Quand on est motivé, on devient plus créatif. Quand on est concerné par la vie de quelqu'un, Dieu va nous aider à trouver une solution de toucher quelqu'un de perdu. Soyons prêts à évangéliser parce que nous sommes sûr que Dieu est prêt à juger les personnes un jour. C'est intéressant de voir aussi que, alors c'est dans un autre contexte, Matthieu 25, ça parle pas des individus, ça parle d'Israël. Lorsque Jésus va revenir, Matthieu 24 et 25 parlent du comportement des nations et du comportement de la nation d'Israël, lors de son retour, lors de sa deuxième venue. En Matthieu 25, 41, il est dit, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voyez, le feu éternel a été préparé. Alors au début, c'était préparé pour le diable et les anges. Alors juste un petit rappel par rapport à ça. On sait dans Apocalypse, à partir du verset chapitre 19, mais surtout au chapitre 20, qu'il y a il va y avoir le jugement du grand trône blanc, et les gens vont être précipités dans les temps de feu, tout comme le diable va être précipité. Il faut savoir une chose, c'est que si on ne suit pas Dieu, qu'on en soit conscient ou pas, on va suivre le diable en réalité. Et Dieu respectera toujours le libre arbitre de l'être humain. Et donc si les gens, durant cette existence, auront choisi d'être avec le camp de l'ennemi, d'être dans le camp de l'ennemi, ils auront suivi le camp de l'ennemi sur la terre, ils vont suivre le camp de l'ennemi dans l'éternité. Et donc c'est pour ça que même si le lac de feu a été préparé pour le diable et ses anges, c'est-à-dire les démons, il y a des êtres humains qui vont y aller aussi parce qu'ils ont voulu suivre celui qui s'est opposé à Dieu. Donc ça c'est quelque chose de. On parlait tout à l'heure dans les témoignages de l'importance du sacrifice de Christ, ce que ça a coûté, etc. Dieu il ne pouvait pas faire plus que ce qu'il n'a fait pour sauver. Et c'est pour ça qu'on a cette assurance aussi. Mais rejeter un si grand salut, c'est un péché très grave. Et donc, Dieu va respecter le choix des gens. Donc, rappelez-vous ça, le jugement est aussi près, tout aussi près que le salut. Et Dieu est allé jusqu'au bout pour manifester sa grâce, et les hommes, malheureusement, sur la terre, vont aller jusqu'au bout pour manifester leur culpabilité. Voilà. Jusque sur leur lit de mort, il y en a qui résisteront à la grâce de Dieu. Autre chose aussi qui est très intéressant, c'est qu'on voit que cette notion du retour de Christ, donc le retour de Christ pour notre salut, mais le retour de Christ aussi pour le jugement, il est souvent fait référence à la soudaineté de cet événement, le côté inattendu. Vous savez, Dieu sait, lui, ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, et donc il veut nous prévenir. C'est dans Jean 2, 24 et 25, où Jésus dit qu'il savait, il connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme, et donc il se faisait pas d'illusions. Mais il a tout fait pour nous prévenir. En Luc 12, 37 à 40, il est écrit « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait point percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Voyez, on voit très souvent dans les Écritures cette notion de soudaineté et de quelque chose d'inattendu. Paul en parle aux Thessaloniciens, c'est que le jour viendra comme un voleur. Alors c'est drôle parce que Dieu n'est pas un voleur, mais c'est le terme voleur qui est utilisé parce que c'est le mot le plus précis pour parler de quelque chose d'inattendu. Par définition, quand on se fait cambrioler, on s'y attendait pas. Le voleur nous dit pas « j'arrive samedi soir », allez chez des amis, laissez-nous tranquilles. D'accord? C'est que, voilà, les voleurs viennent comme des voleurs, c'est-à-dire de façon inattendue. Mais Dieu va agir, non pas parce qu'il est un voleur, mais on va avoir, nous, l'impression que c'est la même chose qui se passe, quelque chose d'inattendu, qu'on n'aura vraiment pas prévu. Rappelez-vous la parabole aussi des vierges, là, des dix vierges, qui parle évidemment d'Israël, en Matthieu 25, 10, pendant qu'elles allaient en acheter, donc de la lumière, hein, des bougies, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Donc on voit que, encore une fois, il y a des gens qui vont être surpris. Soit Israël va être surpris, des Juifs vont être surpris, mais nous les chrétiens, on sera peut-être surpris de l'enlèvement de l'Église, on peut être surpris aussi du moment de l'arrivée de notre mort. Parfois on va la voir arriver, puis pour d'autres, ils la voient pas arriver, ils la verront pas arriver. Et donc c'est un point important dans notre vie chrétienne. C'est d'un côté, on ne vit pas dans la crainte. Si on est entouré d'amour, l'amour parfait bannit la crainte. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais ce dont j'aimerais parler ce soir, c'est du fait que c'est pas anodin de savoir que Dieu est souverain. Et la souveraineté de Dieu sous-entend qu'il fait ce qu'il veut quand il veut. Et parfois, il ne nous demande pas notre avis. Il agit comme il l'entend dans sa sagesse. Et donc, nous devons croire que tout est entre ses mains et s'attendre à des événements. Alors là, je ne parle pas forcément du retour de Christ, mais même dans notre vie, soyons prêts, sans les connaître encore, à vivre des événements particuliers dans notre vie. Alors ça peut être des bonnes surprises comme des mauvaises d'ailleurs, mais en tous les cas, faisons tout dans notre vie pour être prêts. Vivons pieusement, prenons de bonnes décisions, méditons la parole de Dieu, soyons prêts à ce que Dieu nous parle aussi. Soyons prêts, prêts à écouter, prêts à se repentir, prêts à se remettre en question, prêts à obéir, prêts à aller dans une direction qu'on n'avait pas prévue. Très important de réaliser ça. Et puis, ça nous amène à la vie pratique, c'est que on doit être prêt, en réalité. Alors, il y a deux façons d'être prêt, qui sont importantes, enfin les deux à part égale sont importantes. C'est qu'on Je vous ai parlé du salut tout à l'heure. Être prêt en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, c'est de croire au titre que nous avons. Est-ce que je crois que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je suis prêt à vivre ça? Est-ce que je suis prêt à m'adresser à mon Père? Est-ce que je suis prêt à lui faire confiance? Est-ce que je suis prêt à garder une intimité avec lui? Est-ce que je suis prêt de ne pas attrister le Saint-Esprit? Est-ce que, voilà, je suis prêt dans ma doctrine, dans ma conscience, que Christ a fait plein de choses pour moi? Et donc ça, c'est l'œuvre de Christ. Je dois être conscient de l'œuvre de Christ dans ma vie. L'œuvre de Christ passée dont on a parlé, mais aussi l'œuvre de Christ dans ma vie aujourd'hui. Est-ce que je me repose sur ce qu'il est et sur ce qu'il a fait? Qui est Christ pour moi aujourd'hui? Est-ce que je suis prêt en permanence à vivre ma vie avec lui? Et du coup, il y a une deuxième partie dans le fait d'être prêt, c'est être prêt aussi dans notre état moral. C'est-à-dire qu'il y a le titre, est-ce que je suis prêt à entendre le fait que je suis enfant de Dieu? Est-ce que j'assume le titre qui est le mien? Je fais partie de la famille de Dieu. Et du coup, donc ça, ce sont mes droits. On va dire que c'est la doctrine que je connais. Je suis conscient de ça, de ce que Christ a fait. Et l'état moral, ce n'est plus à ce moment-là être conscient de l'œuvre de Christ, parce que l'œuvre de Christ, elle est faite. C'est être conscient de l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie, de ce qui se passe dans mon cœur. Il y a ce que Christ a fait, que je médite, je suis enseigné en permanence là-dessus. Je dois croire par la foi aux vérités, ce que j'appellerais la parole logos. Et à partir de cette doctrine, comme je sais que j'ai reçu le Saint-Esprit, que l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur, est-ce que je crois que le Saint-Esprit peut agir aujourd'hui? Est-ce que je suis prêt à ça? Vous savez, l'incrédulité, c'est, pour utiliser le langage de ce soir, c'est ne pas être prêt au travail de Dieu dans notre vie. L'incrédulité, c'est de se dire, le Saint-Esprit est incapable de changer mon cœur. Le Saint-Esprit est incapable de me parler, de me communiquer, de me fortifier, de me consoler. C'est pas possible. Non, parce que je suis enfant de Dieu et que je suis conscient d'être un enfant de Dieu, je suis conscient de l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Et j'y crois. Tout comme je crois dans ce que Christ a fait, je crois dans ce que le Saint-Esprit peut faire. Encore aujourd'hui. Et donc c'est ça être prêt aussi. Vous voyez, il n'y a pas que le côté statique où bon bah j'attends, c'est prêt, un peu comme les enfants, vous savez, quand on doit partir en vacances, parfois les parents sont un peu en retard, mais les enfants, eux, ont préparé le sac, ils ont mis la poupée, ils ont mis la voiture préférée, tout est prêt. Et ils sont devant la porte, quand est-ce qu'on part? Ils sont prêts. La vie chrétienne, c'est pas forcément ça. Être prêt, c'est avoir un bagage spirituel, un bagage théologique, mais pas rester à la théorie, c'est d'être prêt à la sanctification que permet l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et c'est ça, Paul parle, vous savez, de la honte au tribunal de Christ de certains. Et cette honte, en fait, sera le résultat de chrétiens qui n'étaient pas prêts au retour du Seigneur, pas prêts à avoir une vie digne de ce nom, si vous voulez. Et donc, il y a deux façons de se sentir coupable. Soit parce que je ne réalise pas tout ce que Christ a fait pour moi. Ça, c'est une des raisons de la culpabilité. Mais l'autre raison, c'est parce qu'on sait pertinemment qu'on n'est pas prêt. Vous savez, quand des fois vous avez une discussion avec quelqu'un, si ça vous est déjà arrivé, ou vous êtes un peu en colère, ou vous dites n'importe quoi, et puis il y a une tierce personne qui arrive et qui entend la conversation. On n'est pas fier. On était très, motivé pour parler à l'ennemi d'en face, mais quand il y a une tierce personne qui arrive, on a honte d'être trouvé dans cet état. Et ça, c'est une autre sorte de culpabilité vis-à-vis du Seigneur. C'est-à-dire que, en fait, c'est que si le Seigneur arrivait à ce moment-là, on aurait honte. Et quelqu'un qui, même s'il n'en est pas conscient de cette vérité, vit dans le péché, suscite en fait la culpabilité d'un éventuel retour du Seigneur, de la présence de Dieu qui se manifesterait au plus haut point. Et donc, voyez, vous avez le salut qui a été préparé par Christ, il y a le jugement des impies qui a été préparé aussi, et puis nous, En attendant de bénéficier du salut entier qui a été préparé, aujourd'hui, je dois accepter ce que Christ a préparé, et donc ça me conforte dans ma position. Je crois être un héritier du salut et co-héritier avec Christ, et donc je vais bénéficier de tout ce qu'il a reçu lui-même. Et en même temps, comme je suis encore vivant sur cette terre, je reste en permanence préparé à obéir aux initiations du Saint-Esprit. La vie chrétienne consiste à ça. Il faut être toujours prêt. Vous savez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'obéit pas à Dieu, mais une des raisons que je vois très souvent, particulièrement en France, les gens réfléchissent trop. Qu'est-ce que les gens réfléchissent? Et ensuite, après avoir réfléchi, ils se donnent des bons points ou des mauvais. Voilà. Donc les gens savent tout en théorie, mais ils sont pas assez concrets. Par exemple, ils vont tout savoir sur l'amour qui doit régner entre les chrétiens, mais si vous leur posez la question, mais qu'est-ce que toi tu vis individuellement? Qui tu aimes en ce moment, de façon concrète? Comment tu manifestes cet amour que tu as pour le corps de Christ? Qu'est-ce que tu fais pour les membres qui sont à toi, dans le sens où à toi, on est le corps de Christ, donc on a besoin des autres. On a besoin de recevoir, on a besoin de donner concrètement. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans ce domaine-là? On fait partie d'une église. Quels sont mes sujets de prière pour les frères et sœurs? Est-ce que je prie pour les frères et sœurs? Est-ce que je suis conscient des besoins des frères et sœurs? Est-ce que, vous voyez? Donc tout ça, c'est être prêt, c'est-à-dire c'est une autre manière de racheter le temps. Être toujours prêt. C'est intéressant, dans Jérémie 2, 26, j'ai encore relevé des versets où il est parlé de soudaineté. Alors Jérémie, ça parle évidemment du jugement qui va avoir lieu en Israël, mais il est dit « Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. » Là, c'est intéressant parce qu'il parle même des dirigeants. Mais vous voyez, on a cette dans la Bible, dans toute la Bible, nous voyons un Dieu qui intervient au moment où les gens ne s'y attendent pas. Les gens, on a tendance à dire, voilà, quand est-ce que le Seigneur devrait intervenir? Voilà, il devrait faire ci, il devrait faire ça. Mais Dieu fait ce qu'il veut, il le fait parfaitement. En 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 5, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous sommes point de la nuit ni des ténèbres. Être des enfants de lumière, c'est actif pour la lumière. En 2 Pierre chapitre 3 verset 10, il est dit aussi: Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. On a cette pensée aussi dans l'Apocalypse, vous savez, quand Dieu parle aux églises et que Jean transcrit le message de Jésus-Christ. À l'église de Sardes, il est dit en Apocalypse 3:3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Voyez, nous avons un Dieu, et c'est intéressant parce que il s'agit pas de claquer des dents, nous sommes enfants de Dieu, nous avons le salut. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, eux devraient vraiment avoir la peur de Dieu. Nous, c'est pas la peur, liée à une forme de phobie. Mais c'est la peur de se dire, je ne peux pas contrôler Dieu. C'est pas à moi de décider. C'est pas à moi des fois de trop calculer, de trop planifier. Qu'est-ce que je dois vivre aujourd'hui? Je veux être prêt maintenant. En Apocalypse 16, 15, dans un autre contexte encore, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voyez le nombre de fois où il y a cette notion de rapidité et du comportement de Dieu, où il est dit comme un voleur, c'est-à-dire quelqu'un qui va surprendre tout le monde. On peut avoir des systèmes d'alarme, on peut avoir des vitres double vitrage, on peut avoir des coffres-forts, mais quand on se fait cambrioler, ben ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été prévu. Vous voyez? Et qu'il y a quelqu'un qui nous a surpassé. Et ben c'est ce qui va se passer avec Dieu en permanence et c'est ce qui se passe dans notre vie. On le sait, je veux dire, bon, maintenant ça fait plus d'1 an, mais il y a un peu plus d'une année, qui pouvait penser qu'on en soit encore là aujourd'hui à vivre ce que nous sommes en train de traverser? C'est Dieu est, pourtant, sur le papier, c'est possible une épidémie, on connaît, on sait que ça peut arriver, mais voilà. Et quand Dieu le décide, eh ben c'est lui qui décide et il faut être prêt. Et c'est toute la, je l'espère, tout ce que nous avons reçu durant des années auparavant, qui nous a permis, nous les chrétiens, j'espère le maximum de chrétiens, de persévérer dans la foi, de continuer d'espérer, de ne pas être limité par les limitations actuelles. En réalité, la parole de Dieu ne peut pas être limitée. Elle ne peut pas s'arrêter. Elle se communique d'une manière ou d'une autre, de façon différente peut-être. Les formes, on s'en fiche. Je veux dire, à partir du moment où même des chrétiens peuvent être en prison, nous, on n'est pas en prison, hein, donc on peut communiquer, on peut prier, on peut évangéliser, on peut intercéder, on peut exprimer le caractère de Dieu. On est prêt en permanence à glorifier Dieu. Dieu a préparé un salut pour nous. Dieu prépare un jugement pour ceux qui n'accepteront pas ce salut. Et Dieu prépare des choses d'avance pour nous. Il a préparé des œuvres d'avance selon Éphésiens. Et il y a pour nous, jour après jour, une décision à prendre à chaque fois, de dire, voilà, je connais ma position d'enfant de Dieu, mais je veux connaître mon expérience d'enfant de Dieu. Et mon expérience d'enfant de Dieu, c'est accepter l'œuvre de Christ pour moi, mais aussi l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Que Dieu vous bénisse.